Alléluia, gloire à Dieu. Nous n'allons pas reprendre ce psaume maintenant, mais j'aurais pu, c'est un psaume magnifique. Mon âme bénit l'Éternel. Alors ce que je voulais aborder avec vous ce matin, et j'espère que ça intéressera autant les jeunes que les aînés, c'est l'approche des fêtes selon l'Esprit de Christ. Donc je vais d'abord lire un certain nombre de textes de l'Écriture et puis après j'en viendrai aux fêtes et en particulier à la fête de Noël, de la manière dont elle est célébrée actuellement. Alors d'abord tout simplement Jean chapitre 16 versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc l'Esprit de vérité que Jésus nous a promis pour nous conduire dans toute la vérité. Au chapitre 19 du même évangile, tout simplement le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le salut, notre salut, vient d'un accomplissement. Si nous allons, je ne vais pas aller chercher, mais je vais le citer tout simplement, à la conclusion de la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idolâtrie est un risque permanent, même pour celui qui a été éclairé par le Saint-Esprit, puisque l'apôtre s'adresse à des disciples. Dans Colossiens, au chapitre 2, versets 16 à 19, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 5, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Ce passage aborde les difficultés du culte véritable et leurs solutions en Christ et en sa parole. Si nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 8, les versets 4 à 7, eh bien, il y a un autre aspect des choses qui est abordé. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ses viandes comme étant sacrifiés aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il y a ici aussi une autre donnée qui intervient, le respect du frère, le respect de la conscience du frère. Nous continuons avec le chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et puis il y a surtout ce chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Je ne fais pas des commentaires, je relis seulement les textes pour nous replacer dans le contexte général de l'enseignement de l'apôtre au sujet des opinions. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, et il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La conviction dans l'amour du Seigneur ici. Dans l'amour du Seigneur, hein, puisqu'il s'agit de manger ou de ne pas manger, de respecter des jours ou de ne pas respecter des jours, à cause du Seigneur et pour le Seigneur. Enfin, je terminerai ces lectures avec l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 19 à 21. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est une permanence, Christ vit en moi, maintenant que j'ai reçu son amour, sa grâce. C'est une permanence et c'est une suffisance, ça me suffit. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, surtout, ne délaissons jamais Christ vivant en nous pour un objet réel ou symbolique. En réalité, c'est permettre à notre âme de se tourner vers l'objet plutôt que d'être en relation avec Christ chaque jour, lui abandonner notre vie et vouloir vraiment que sa connaissance soit répandue. Christ est aucun objet qui vienne se substituer à lui. Christ vivant. Alors les fêtes. Ce que je vais dire ici, c'est des choses qui sont parfois un peu approximatives. Si vous voulez vraiment faire une étude sur le sujet, on va faire des recherches et puis il y aura peut-être des corrections à faire. Mais voilà. Pourquoi y a-t-il des fêtes? Pourquoi fêtons-nous Noël? Pourquoi fêtons-nous Pâques? Parce qu'un calendrier a été établi. Et dans ce calendrier qui reprend les saisons, les différentes saisons, eh bien, les grandes étapes de notre rédemption ont été signifiées, placé pour dire donc ce qui s'est passé lorsque Dieu a voulu nous sauver. Et donc certains ont établi un calendrier des fêtes chrétiennes qui rappellent l'incarnation, l'œuvre à la croix, la Pentecôte, le don de l'Esprit, tout cela donc pour jalonner une année, faire un cycle naturel, puisque c'est le cycle naturel, une année, en rappelant l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Était-ce nécessaire d'avoir un calendrier qui reprenne chaque année les éléments de la foi, les fondements de notre foi? Ce n'était pas nécessairement utile. En tout cas, il y a eu des discussions dans les premiers siècles entre les églises. Certaines églises ne voulaient pas de calendrier avec les fêtes chrétiennes. Mais finalement, cela s'est imposé. Et il y a maintenant ce calendrier qui s'est, qui s'est tellement répandu et imposé que c'est une évidence pour nous qu'il y a des fêtes chrétiennes qui jalonnent toute l'année. Le fait est là. Que faire? Ignorer ce calendrier? C'est possible. Quelqu'un peut vraiment, parce qu'il est à Christ, ne tenir aucun compte d'un calendrier chrétien. se servir de ce calendrier pour rappeler, pour marquer dans la conscience l'œuvre de Jésus-Christ, pourquoi pas, célébrer à l'occasion de chacune de ces fêtes. Ça, c'est donc la manière traditionnelle qui, en fait, disons les mots, est la manière catholique, c'est l'Église romaine qui a donc conduit et organisé toutes ces choses. Donc il y a Noël, et pour arriver à Noël, on a placé 40 jours avant pour se préparer à la fête de Noël, l'Avent. Mais il n'y a pas que l'Avent, il y a aussi le Saint-Nicolas, il y a aussi les rois, il y a aussi les saints innocents, etc., qui jalonnent tout le calendrier, qui reprennent les étapes de l'histoire biblique. Enfin, Saint-Nicolas, c'est un peu autre chose. Mais enfin, il est là quand même. Alors, et puis, bien sûr, il y a la crèche, puisque c'est le moment de la naissance de Christ qui est célébré. Voilà. Et à un moment donné, les protestants qui ont contesté l'enseignement et le pape, etc., les protestants ont dit, c'est une représentation, la crèche, pas de crèche. Pas de culte des saints, donc pas de Saint-Nicolas. Mais la fête est là. Alors même les croyants sincères voudraient quelque chose quand même de concret, de représentatif de la fête. Alors les protestants alsaciens, d'après ce que j'ai su hier, sont les alsaciens, bon, on a parlé des allemands aussi, on dit, prenons un arbre et montrons ce qu'il est advenu à la venue de Christ, qui est la lumière du monde. Voilà, et cet arbre, donc, la période d'hiver, qu'est-ce qu'on peut trouver comme arbre qui a des feuilles persistantes? C'est donc un sapin qui a été choisi. Mais il y a, jusqu'à présent, j'avais cru comprendre qu'il représentait l'arbre de vie, mais ce qu'on vient de m'apprendre, c'est qu'au contraire, il représente l'arbre du péché. Ah! Pourquoi est-ce que les protestants ont décidé de prendre cet arbre comme représentant l'arbre du péché et le mettre à Noël? Et les boules, eh bien, ce sont les fruits défendus. Alors là, encore, ça vient renverser notre compréhension. On ne va pas célébrer l'arbre du péché à Noël. Oui, mais il y a les bougies, les lumières qu'on vient mettre sur l'arbre. Et ces lumières, qu'est-ce qu'elles annoncent? Jésus-Christ, la lumière du monde, qui est venu couvrir le péché. Donc, le Seigneur, par son œuvre de grâce, vient, voilà, effacer le péché, éclairer de sa lumière l'homme pécheur, et il lui fait grâce. Voilà, d'après ce que j'ai compris, ce que les protestants ont voulu signifier à travers le sapin. Alors, c'est ainsi que s'est généralisé le sapin dans notre civilisation. Le premier sapin en France a fait son apparition dans un temple luthérien à Paris au XIXe siècle. Et comme le disait ce frère luthérien, dans mon enfance, nos parents disaient « la crèche, c'est catholique, le sapin, c'est protestant ». Bon, ben, nous, on a les deux maintenant. Hein. Alors, on aurait pu en rester là. Mais, d'après ce que j'ai compris également, certains ont pu faire des recherches à ce sujet, au début du XXe siècle, un pasteur américain a eu l'idée Il a certainement voulu lui aussi donner un contenu à cette fête qui était toujours vide de représentation dans sa tradition. À imaginer un conte, une histoire, avec un personnage qui amènerait des cadeaux à Noël. On comprend le sens symbolique, puisque Dieu nous a fait le plus grand des cadeaux à Noël. Et c'était parti pour le raz-de-marée du Père Noël pendant le XXe siècle. Il y a eu différentes versions, puisqu'il a commencé en vert, il est devenu rouge ensuite. En réalité, c'est une autre version du Saint-Nicolas, qui avait la même fonction dans la tradition catholique, doublé d'une exigence morale, puisqu'il était accompagné du père fouettard pour les enfants désobéissants. Alors le monde païen, qui a toujours aimé les fêtes et les lumières, n'est pas dérangé par ces traditions religieuses ou pseudo-religieuses. Et le fidèle en Jésus-Christ se retrouve là, au milieu de cette fièvre, et quand même, à un certain moment, il s'interroge. Que vais-je faire? Mon Dieu me permet-il? Et beaucoup en viennent à penser, toutes ces fêtes, en définitive, sont d'inspiration païenne. Le calendrier chrétien a recouvert un calendrier païen, effectivement. Et pour aller plus loin, c'est exactement le sens de cette institution par l'Église romaine que l'œuvre de Christ reprenait à son compte et couvrait de sa grâce toutes les nations. Alors, quand même, le raisonnement est, si tout ça c'est païen, il faut l'abandonner. Il ne faut plus rien fêter, et de Noël en particulier. Mais certains ne s'arrêtent pas là. Ils poursuivent, retournons aux fêtes de l'Éternel, puisque ces fêtes-là sont justes, ce sont les bonnes. Elles ont été ordonnées dans la loi de Moïse. Parce que toute l'année judaïque était parsemée par ces fêtes de l'Éternel. Et à travers l'histoire donc du peuple de Dieu. Est-ce que c'est la réponse de l'Esprit? Réfléchir aux fêtes de l'Éternel, oui. Discerner tout leur sens, oui, pour notre édification, parce que toute la grandeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ y est signifiée. La Pâque, la Pentecôte, et la fête des tabernacles, effectivement, ça annonce véritablement l'œuvre de Christ. Mais les remettre en vigueur, c'est autre chose. Les célébrer, non. Ce serait revenir à la loi. Comment un peuple spirituel, qu'est l'Église, peut-il s'appuyer sur des fêtes charnelles? Parce que les fêtes de l'Éternel étaient aussi des fêtes charnelles, durant lesquelles on mangeait et buvait. Elles suivaient les saisons, comme peuvent le faire les fêtes païennes. Inutile donc de les remettre en vigueur. Le fait est que tout est accompli de ce qui devait nous réconcilier avec le Père et permettre au Saint-Esprit de faire de nous de nouvelles créatures, celles qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce qui importe maintenant, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce qui importe aussi maintenant, c'est Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce qui importe. Christ qui vit en moi, Christ qui a aimé l'Église, qui l'a appelée hors de ce monde, qui l'a constituée pour être son épouse. Donc, si vous avez Christ et l'Église, l'assemblée qu'il sanctifie, vous avez tout ce qui est suffisant. Vous vivez pour Dieu, fête ou pas fête, anniversaire ou pas anniversaire, famille ou pas famille, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous vivez encore dans ce monde et vous y avez part d'une certaine manière. Et chacun, on peut dire quand même, fixe la limite qui lui est propre. Certaines choses doivent encore s'accomplir qui concernent le salut final, la rédemption totale et qui verront les choses d'à présent être totalement transformées. Pour l'instant, elle demeure. Les saisons demeurent, les joies charnelles demeurent. Que faire avec cela? C'est chacun dans sa conscience et son désir d'être à Christ et de glorifier Christ. Je relève ce que vient de dire notre frère. Certains ont fait un calendrier de l'Avent avec des versets de biblique. Bon, les calendriers de l'Avent, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des confiseries qu'on ouvre pendant 40 jours avant Noël. Des chocolats. Certains, parce que ils ont l'amour de Christ, se sont dit, ben, ces chocolats, on va les remplacer par des versets bibliques. Voilà leur motivation, faire connaître Christ. Alors, voilà, au point où nous en sommes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Prenons vraiment garde qu'il n'y ait une de ces choses ou plusieurs, mais même une seule, qui ne devienne une idole pour nous, une idole pour vous. N'importe laquelle. Ça peut être le fait de donner les cadeaux qui est une idole. Ça peut être le repas lui-même qui est une idole. Ça peut être le Père Noël, bien entendu, qui est une idole. Et ainsi de suite. Prenons garde qu'aucune de ces choses ne devienne une idole que vous aurez du mal à extirper de votre cœur. Parce qu'il vous plaira de penser qu'à travers elle, vous accomplissez quelque chose de vivifiant. Je répète. Parce qu'il vous plaira de penser qu'à travers elle, vous accomplirez quelque chose de vivifiant. Seul Christ est vivant et donne la vie. Il n'a pas besoin de symboles pour cela. Il n'a besoin que de vos cœurs, votre mauvais cœur, pour y mettre sa parole, pour l'opérer, pour le briser et le reconstituer dans son amour et sa justice. Et sur ce, eh bien, je peux vraiment vous dire joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.